Hein, je pense que je suis un peu moins grand que Frédéric. Dans 1 Samuel, chapitre 30, il s'agit de Tsiklag. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1er. Un moment difficile dans la vie de David. Enfin, un des moments difficiles de sa vie, parce que la vie de David a été ponctuée de grandes épreuves, de grands combats, même dans sa vieillesse. Et au fond, l'Écriture nous montre quand même qu'en général, les hommes de Dieu ont souffert. N'est-il pas écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés? 1 Samuel, chapitre 30, verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 8, et j'ai titré ce texte « De l'angoisse au courage ». Alors, 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait des prisonniers, les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Alors, c'est pas en taille, hein, c'est-à-dire les pauvres et les riches. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jisraël et Abigaïl de Carmel, femmes de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Et Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je ? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent de Besor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu ?» Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit aussi de guide. Et voici, les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeaient, buvaient et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchait à sa tête, disait « C'est ici le butin de David ». David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Besor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés. Et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire ? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois à ceux de Bethléem, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmoth, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Jérakmélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Korachan, à ceux d'Attak, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Amen. Amen. C'est un passage qui commence très mal, comme nous l'avons lu ensemble. Ils reviennent à Tsiklag. Et tout est brûlé, tout est ravagé. Alors comment comprendre ce texte ? Ce n'est pas si facile, parce que vous savez que ce n'est pas dans la meilleure des périodes de la vie de David que cela lui est arrivé. Ça fait 1 an et 4 mois qu'il ment. Qu'il ment à Achish, qui lui dit qu'il va en Juda faire là les piller. En réalité, non, c'est pas en Juda, c'est chez les Amalécites et d'autres peuples, et ils tuent tout le monde pour que personne ne puisse dire la vérité. Ça fait 1 an et 4 mois qu'il pille, 1 an et 4 mois qu'il ment, et là, il revenait de où ? Il revenait de chez les princes des Philistins, qui s'étaient rassemblés pour attaquer Saül. Et je pense, à juste titre, les princes des Philistins ont refusé que David fasse partie de leur troupe, parce qu'il se méfiait de lui. Et personnellement, ça n'engage que moi, je suis persuadé qu'effectivement, si David avait été dans la bataille, dans le camp des Philistins, arrivé contre Israël, il n'aurait jamais pu faire de mal à Israël. Alors quelque part, je comprends que les princes des Philistins n'en veuillent pas dans leur rang. Alors il revient à Tsiklag. Et là, il faut peut-être parler comme cela, il lui est fait ce qu'il faisait depuis 1 an et 4 mois. Ça fait 1 an et 4 mois qu'il pillait, qu'il tuait tout le monde. Il lui est fait ce qu'il faisait, parce que Dieu est juste. L'apôtre Pierre dit que nous avons comme père celui qui ne fait pas de favoritisme. Alors mettez-vous à la place de David. Tout est détruit et en plus, il n'est pas dans la meilleure période de sa vie. Il y aurait de quoi se laisser complètement abattre. Et c'est d'ailleurs dans un premier temps ce que tous ont fait. Ils ont pleuré jusqu'à plus pleurer. Il n'y a pas longtemps, j'avais eu sur le cœur, je l'ai partagé avec vous, un message sur les larmes. Des bonnes larmes, des mauvaises larmes.
Et ici, dans ce passage, les larmes reviennent. Il pleure jusqu'à ce qu'il ne puisse plus pleurer. Il faut que nous fassions attention de ne pas nous laisser écraser par nos fardeaux, de ne pas nous laisser détruire par nos difficultés, et que nos larmes, à la fin, nous noient. Quand ils ont plus de larmes, ils sont passés à autre chose, la colère. Ils voulaient lapider David. Vous savez, nos émotions sont comme cela. Nous sommes capables de pleurer, d'être très attendris, trop parfois attendris, et à l'inverse, nous sommes capables de nous mettre en colère et même de vouloir lapider. Ça, ce sont les sentiments humains. Les larmes ou la haine ou la colère, ce sont nos sentiments. Mais tout cela ne faisait pas l'œuvre de Dieu. Et dans cette situation, je ne sais pas comment il a fait. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Je crois que quand nous aurons fini de pleurer, quand nous aurons fini d'être en colère, nous pourrons peut-être faire l'essentiel, nous appuyer sur le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Trouver le chemin de sa présence. Découvrir sa volonté. Que fait-il quand il reprend courage pour s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu? Alors que, à mon avis, le diable devait lui dire, « David, il t'est arrivé ce que tu mérites. Ça fait 1 an et 4 mois que tu mens et tu vas pas te tourner vers Dieu quand même. » Mais il reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Nous ne nous appuyons pas sur Dieu parce que nous le méritons, parce que nous sommes des gens bien. En fait, nous avons un sauveur parce que ce sont les malades qui en ont besoin. Et sauveur parce que nous sommes tous les mêmes. Sommes tous des pécheurs. David prend appui sur l'Éternel, son Dieu. De quelle façon? Il se tourne vers le souverain sacrificateur. Apporte l'éphod. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Je crois que la seule façon pour nous de reprendre courage, c'est de nous tourner vers le souverain sacrificateur et de lui demander la lumière et la perfection. C'est la signification des mots Urim et Thummim, ces objets un petit peu mystérieux qui se trouvaient dans l'éphod, qui était une poche du pectoral. Il y avait une grande poche sur cette tunique du souverain sacrificateur et dedans, il y avait des objets par lesquels on pouvait consulter et connaître la volonté de Dieu. Et ces objets Urim et Thummim voulaient dire lumière et perfection. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous aurons la lumière et la perfection. Il n'y a qu'en lui que nous saurons ce qu'il faut faire. Il n'y a que lui qui pourra vraiment nous donner sa pensée et la pensée de Dieu. Dois-je y aller? Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Et là, la réponse de Dieu étonne. Vas-y, David, tu poursuivras, tu atteindras. Si Dieu nous exauce, c'est par le nom de son Fils. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Parce que vous et moi, je ne sais pas, on aurait peut-être hésité d'exaucer David dans cette période de sa vie. Mais si nous nous tournons vers le Seigneur, ils nous obtiendront grâce et miséricorde dans tout ce que nous avons besoin. Ils se mettent en marche, ils se mettent en route. C'est beau, verset 9, David se mit en marche. Il n'y a pas longtemps, il était dans l'angoisse. Il n'était pas dans la possibilité de se relever. Là, David se met en marche. Quand Dieu nous parle, il nous fortifie. Et ce que nous avons besoin, bien-aimés, c'est de lire abondamment la parole de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Parce que quand Dieu nous parle, nous pouvons marcher. Alléluia. C'est tellement différent de nos sentiments et de nos pensées qui ne nous donnent pas de force. David prend courage, il se met en marche, et dans cette expédition, Il y a 200 hommes qui sont pas assez forts. 200 hommes qui se fatiguent, 200 hommes qui s'arrêtent, qui abandonnent la lutte. Et les autres poursuivent et tombent sur les Amalécites. Mais entre deux, la providence. Un jeune garçon égyptien est retrouvé. La providence. Il y avait 200 hommes de fatigués. Vous savez, de là où ils revenaient, c'était compliqué. 200 hommes, le tiers, quand même. Le tiers de la troupe, c'est pas rien. Le tiers de la troupe qui se met sur le côté. Mais Dieu les secourt par un jeune garçon. Il faut remarquer que David est bon avec ce jeune garçon égyptien. Il est plein de bonté. Il lui donne à manger, il reprend des forces. Ce jeune garçon fait la différence entre la cruauté des Amalécites et le Dieu d'Israël. D'ailleurs, il dira, « Jure-moi au nom de ton Dieu !» Quelque part, cet Égyptien a vu qu'en Israël, il n'y avait pas la cruauté des Égyptiens ou des autres peuples. Et l'histoire nous démontre d'ailleurs que le peuple juif avait quand même, sauf quand il apostasiait, sauf quand il lui aussi allait vers les idoles des nations étrangères, mais le peuple juif dans ses lois était bien supérieur à tout ce qui existait à l'époque. Non pas parce qu'ils étaient en eux-mêmes supérieurs, mais c'est leur Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Alors le jeune Égyptien veut bien faire confiance en David parce que David a eu de la bonté. Là aussi, on peut y réfléchir. Voilà un homme, David, qui tuait tout le monde. Il a été humilié par Tsiklag et ce jeune Égyptien, il lui fait du bien. Et Dieu est bon. Soyons bons comme notre Père Céleste est bon. C'est un Égyptien, ce n'était pas un Juif, mais il lui fait du bien. C'est qu'un esclave, quelqu'un de méprisable, mais il l'honore. Et d'ailleurs, regardez ce que Dieu fait. C'est un jeune garçon, esclave, malade, qui devait mourir, qui devient leur guide. C'est écrit qu'il les guida. Le guide de cette victoire, c'est ce jeune esclave égyptien qui devait mourir. Dieu utilise les choses faibles du monde afin que ce soit seulement lui qui soit glorifié. Alors ce jeune homme égyptien les conduit grâce à la providence de Dieu, à la bonté. Vous savez, bien-aimés, il ne faut pas nous laisser gagner par le mal. La Bible nous demande de surmonter le bien par le mal. Mais il faut faire du bien, il faut bénir, il faut manifester de la bonté. Et si nous manifestons de la bonté, Dieu nous bénira. C'est ce que David a fait pour cet esclave. Et puis, quand ils reviennent de cette prodigieuse victoire, David se manifeste encore dans ses qualités d'homme de grâce, parce que il y avait des hommes méchants et vils, c'est écrit, méchants et vils, qui sont durs, qui disent, oh, ces 200-là, trop faibles. Les faiblards, les démissionnaires, n'ont rien du tout. Ils soient déjà contents qu'on leur donne leur famille. Et David, là, il est conscient que non, c'est pas bien, parce que Dieu nous a gardés. Si on a eu cette victoire, c'est pas parce que nous on était forts et eux sont faibles. Parce que si vous les jugez faibles, c'est que vous pensez que vous êtes forts et que vous avez obtenu la victoire. Mais vous êtes fous. C'est Dieu qui nous a gardés. C'est Dieu qui nous a donné la victoire. Ne faisons jamais des victoires de Dieu les nôtres. Ne devenons pas orgueilleux de ce que Dieu a pu faire. Parce que ce que Dieu fait, c'est lui qui le fait. Et dans ce retour, ben, David a dit, il nous est interdit d'être sévère avec ces gens-là. Cela nous est interdit parce que ce n'est pas notre victoire. Si vous êtes sévère avec ces gens-là, c'est que vous considérez que tout cela, c'est le fruit de votre combat. Mais ça nous est interdit, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Et quand on sait que Dieu nous fait grâce, on fait grâce aux autres. Et il leur donne autant qu'aux autres. Ah, cette parabole des ouvriers nous déconcerte, hein. Les ouvriers de la dernière heure. Alors, ceux de la première heure, ils se frottaient les mains. Quand ils voyaient ceux de la dernière heure venir avec le salaire d'une journée, ils disaient, waouh, wow,
On va avoir, nous, on va avoir.
Mais quelle déception quand l'employé donne la même somme aux ouvriers de la première heure que ceux de la dernière heure. Et ça leur semble injuste. Mais cette parabole de dire, mais je fais de mon argent ce que je veux, si je veux être bon avec tout le monde, que t'importe, est-ce que je te vole, je te donne ce qui est prévu. Tu as travaillé une journée, je te donne le salaire d'une journée. J'ai le droit de donner aussi l'équivalent d'une journée de travail à celui qui n'a travaillé qu'une heure. C'est moi qui donne, je suis le patron, c'est moi l'argent, je fais comme je veux. Alors ça nous semble injuste, nous. Mais au contraire, Dieu est un Dieu de grâce. Et il donne à tous. Ceux qui sont plus forts, ceux qui sont moins forts. Ceux qui ont été jusqu'au bout, ceux qui se sont arrêtés en chemin. Ah, c'est un bon climat de grâce et de fraternité. Il y a un mot, j'ai essayé de m'y arrêter tout à l'heure dans la lecture. Il est dit « ensemble ». Ensemble. Ils ont partagé ensemble. L'attitude de la grâce favorise l'unité. La dureté favorise la division. Mais la grâce va unir. Et puis, c'est érigé en loi, une loi de fraternité, une loi de solidarité. À partir de cet événement, c'est devenu une loi et une coutume. Ceux qui étaient à la logistique avaient le même que ceux qui étaient en première ligne. Alléluia. C'est une loi de grâce, une loi de solidarité, une loi d'humilité. Puis je termine avec la fin du passage, versets 26 à 31. Bien, il nous est dit, nous l'avons lu, que David a fait de ce butin des cadeaux à tous les anciens et aux villes de Juda, là où il était passé. David était reconnaissant. David était en fuite, mais il avait su en Juda parfois se poser dans certaines villes. Et quand là, il fait une razzia extraordinaire parce qu'il récupère tout, c'est vrai. Mais, parce que, vous savez, c'est vrai qu'il a reçu ce qu'il a fait au début quand Siklag était incendié. Mais il y a une remarque quand même qui est formidable, c'est qu'il est dit que personne n'a été tué. Dieu a été bon quand même. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et à la fin, tout l'argent qu'il a de Siklag, qu'il a récupéré, plus le butin que les Amalécites avaient pris d'autres, donc, à la fin de cette épreuve, c'était mieux pour David. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Cette épreuve l'a plus enrichi que ce qu'il avait au départ. Je sais que c'est difficile à comprendre pour nous, parce que quand on est dans l'angoisse, on est très loin de le croire. Et bien aimé, il faut quand même que nous demandions pardon au Seigneur, parce que notre foi elle est bien fragile. Quand nous sommes dans des moments de difficulté et d'angoisse, nous ne croyons plus à grand-chose. Mais en réalité, ce passage nous montre que même s'il était dans l'angoisse, à la fin, Dieu l'a béni davantage. Et il avait plus. Mais c'est un roi généreux. Il distribue en reconnaissance aux villes par lesquelles il était passé de nombreuses richesses. Et en fait, ça va préparer son règne. Parce que vous savez, la suite... David sera secouru dans cette affaire de Siklag, mais par contre Saül, en même temps, va mourir sur le champ de bataille. Après avoir consulté une sorcière, il mourra, il se suicidera. Et dans quelques jours, Juda va rappeler David et David va régner sur Juda. En fait, cette bataille de Siklag a permis à David d'offrir toutes ses richesses aux villes de Juda pour préparer sa royauté. C'est étonnant. Comment Dieu fait ça? Comment Dieu fait ça d'un homme qui pendant 1 an et 4 mois était en difficulté, se retrouve là avec toutes ses familles, emmener sa ville incendiée, à la fin du passage, il fait des présents extraordinaires à la tribu de Juda. Et c'est déjà son règne qui va bientôt pouvoir être commencé, pardon, parce qu'il l'a préparé. Oui, nous croyons que Dieu est souverain et que rien n'empêchera son plan et sa volonté de s'accomplir. Alléluia. Alors, le mot de conclusion avec ce passage, simplement, c'est de dire, apprenons
à reprendre courage en nous appuyant sur l'Éternel. Nous pouvons pleurer, nous pouvons nous mettre en colère, mais au fond, ce qu'il faut faire, c'est s'appuyer sur l'Éternel pour reprendre courage. Que Dieu nous bénisse.